I remember when I was young and I would go into a gallery to show my work, the gallery dealer would look at my legs, but not my art.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Des cernes noires, la peau et les cheveux de couleur sourde, un profil légèrement de biais, les bras croisés, enveloppant presque son buste, un collier de perles, le regard au loin, au-delà du spectateur. Un autoportrait comme un médaillon sur un halo rouge et bleu. Voici comment se peint l'artiste Faith Ringgold en 1965. Âgée de 35 ans, afro-américaine, féministe, engagée dans le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Mais où se pose ce regard qui semble aller si loin? Que veut nous montrer Faith Ringgold et qu'on ne verrait pas? Vous êtes historienne de l'art contemporain, professeure à l'université Rennes 2 et critique d'art. Vous êtes la première historienne d'art en France à avoir écrit sur Faith Ringgold et vous êtes l'autrice de Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain disponible aux éditions d'Ivoire. Pourquoi on ne connaît pas Faith Ringgold en France ?
Peut-être parce que...
En tout cas, moi, je vais dire ça, parce que ça se trouve, plein de gens vont m'écrire en me disant « Mais si, moi je la connais. » Ben, pas moi.
Ça dépend beaucoup de la façon dont l'écriture d'une histoire de l'art des femmes devient visible ou pas. On ne la connaît pas, peut-être parce qu'on n'a pas lu mon livre aussi.
C'est vrai. C'est l'occasion de dire
pas suffisamment lu mon livre qui a été donc publié en 2004. Et puis, c'est une question à laquelle je réfléchissais récemment, au moment donc de l'exposition qui vient de commencer. C'est, il me semble, que la médiatisation des artistes femmes est vraiment tributaire du musée ou d'une histoire des expositions, plus que d'une visibilité dans les publications. Il me semble que c'est ça. Alors après,
c'est pas un problème de recherche, c'est un problème de musée, en fait, ou d'institution.
Je pense que c'est une question d'institution, c'est aussi une question de recherche. Après, moi, j'ai toujours beaucoup présenté Faith Ringgold dans mes cours, par exemple, lors de mon enseignement. C'est une artiste sur laquelle je travaille depuis très 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 longtemps. Donc, après, la question de la visibilité, ou est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on ne connaît pas, je pense que c'est aussi très fortement lié à ce que l'on souhaite présenter et montrer, et à quel moment est-ce que on ne peut plus éviter de présenter ou de d'écrire sur ces artistes-là.
On ne peut pas faire sans Faith Ringgold.
On ne peut pas faire sans Faith Ringgold, puisqu'il me semble que c'est une des artistes les plus importantes du second 20e et 21e siècle.
Alors vous l'avez dit, il y a une exposition en ce moment sur Faith Ringgold, Black is Beautiful, c'est au musée Picasso, c'est donc à Paris, c'est jusqu'au 4 mars 2023. Pourquoi pensez-vous, Elvan Zabunian, qu'on ne peut pas faire sans elle maintenant, en fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait qui a tant marqué le 20e siècle ?
Alors, pour revenir un petit peu à la genèse de cette visibilité qui est relativement récente, c'est le MoMA, lorsque le musée a ouvert ses portes après un temps de restauration et d'extension architecturale, a eu l'audace, je dirais, de présenter un tableau très important de Faith Ringgold qui s'appelle American People. Et c'est le numéro 20 de ce tableau qui s'appelle Die, qui a été réalisé en 1967, et qui a été réalisé en 1967, 67 étant la date de la première exposition de Faith Ringgold à New York, dans la galerie Spectrum, en décembre 1967, donc ouvre cette exposition personnelle de l'artiste. Et donc le musée, le MoMA, a choisi de présenter ce tableau qui fait quand même plus de 3,60 mètres de long, face à, ou pas face, mais à côté des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et comme le soulignait l'une des historiennes de l'art qui a écrit un article à l'époque dans la revue Art Forum, donc ça c'est octobre 2019, c'est très récent, le MoMA acquiert l'œuvre en 2016, donc grâce à une aide de soutien pour les femmes artistes qui voilà de mécènes. Et donc à ce moment-là, là, il paraît indispensable ou impensable de ne pas présenter cette œuvre sur les cimes du musée. Et en fait, cette historienne de l'art qui commissaire d'exposition, qui écrit sur cet accrochage très audacieux, insiste sur le fait que pour que Faith-Ringgold devienne aussi canonique ou iconique que Picasso, il faudrait que le tableau reste sur le mur de façon définitive et ne soit pas uniquement un accrochage temporaire de la collection. Aujourd'hui, il n'est plus sur les murs du MoMA.
Donc elle n'a pas réussi.
Puis l'autre élément qui est intéressant aussi par rapport à la question de l'espace, c'est que il y a au moment de cet accrochage un banc qui est à la fois devant les Demoiselles d'Avignon et devant Die de Faith-Ringgold. Ça sous-entend qu'un banc dans un musée, c'est aussi un moment de pause où les spectateurs, spectatrices peuvent s'asseoir et regarder de façon plus attentive aussi ce qui se joue sur cette toile ou sur cette œuvre. Et donc ce moment en fait très important, octobre 2019, à mon sens, a permis de ne plus, enfin, un retour en arrière était quasiment impossible, hein, et on s'est aperçu en effet que c'était une artiste, enfin, on le savait que c'était une artiste très importante, mais l'institution hégémonique avait tranché en présentant cette juxtaposition totalement inédite.
Alors il faut, avant qu'on décrive ce tableau, parce qu'il est quand même assez, assez fabuleux, hein, il faut le dire, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Faith-Ringgold et déjà avec cette première question, est-ce qu'elle était connue, est-ce qu'elle est connue aux États-Unis?
Oui, elle est connue aux États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Disons que
elle est étudiée. On parle d'elle. C'est une des grandes artistes. Alors, elle est encore vivante. Hein, Faith-Ringgold, elle ne crée plus, mais elle est encore vivante. Est-ce que voilà, c'est une artiste incontournable comme nous, par exemple, avec Soulages.
Je ne sais pas si c'est possible de comparer Faith-Ringgold à Soulages.
le nom de premier peintre qui me venait en tête.
Mais je pense qu'elle est absolument incontournable. Déjà, alors ça dépend bien sûr de quel point de vue on se situe. Cette question du point de vue est toujours importante. Elle est présente dès la fin des années 60, à la fois dans un contexte qui est un contexte politique, mais aussi un contexte artistique. C'est une artiste new-yorkaise, donc New York est quand même le centre de l'art contemporain et de l'art moderne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les années 60 sont aussi un moment historique très très fort, donc elle est présente dans ces moments historiques. Et dans le même temps, elle subit, comme beaucoup d'artistes femmes, et en plus en étant africaine-américaine, donc comme elle le dit elle-même, en tant que femme de couleur, elle lutte beaucoup. Et dans son autobiographie, qui recèle de plein de petites anecdotes assez amusantes, on voit bien qu'elle est complètement immergée dans ce milieu. Elle le connaît très bien. C'est quelqu'un qui est issu aussi d'une famille. Donc sa mère était styliste et couturière, et elle a baigné dès son adolescence dans un univers très très cultivé et culturel. Sonny Rollins, que l'on a entendu au début, c'était un ami à elle au moment de son adolescence, donc elle était, il était là son anniversaire des 14 ans par exemple, donc elle est engagée, c'est pas du tout une artiste périphérique ou qui est isolée dans son coin. De toute façon, New York est une ville, et en habitant Harlem, mais bien évidemment les discriminations sexuelles et raciales qui sont encore opérantes aujourd'hui, pas uniquement dans le monde de l'art, on jouait en la défaveur, non pas uniquement de Faith-Ringgold, mais de beaucoup d'autres artistes qui surgissent ou ressurgissent ou émergent soudain pour des raisons de visibilité que l'on ne peut plus cacher, en fait.
Voilà. Faith Ringgold, elle est née en 1930, elle est née dans le contexte de la Grande Dépression, de la ségrégation raciale, elle est née à Harlem, vous l'avez dit. Comment elle se situe à la fois dans cette époque, le moment où Harlem est quand même en ébullition, et en même temps, comment en fait elle va réussir à la fois s'immerger dans ce contexte et en même temps, presque en, pas en ressortir, mais du moins y tracer une voie singulière?
Alors, en effet, comme vous l'avez dit, les années 30 sont aussi très fortement marquées. Alors ça, c'est le moment où elle est encore très très jeune, puisqu'elle a elle a entre 0 et 10 ans. à ce moment-là, même dans son autobiographie, elle raconte assez peu de choses, en fait, de cet enfant. Enfin, je veux dire, elle raconte un peu le lien avec ses parents, elle parle beaucoup de sa mère, etc. C'est plutôt à partir des années 40, donc un moment où elle devient adolescente, où elle va notamment écouter Billie Holiday à l'Apollo, qui est sur la 125e rue à Harlem, qui est un des grands théâtres. Elle est très très proche de beaucoup donc de musiciens de jazz et de personnalités. Il y a un moment, et puis elle fait des études. Alors c'est un peu plus tard, mais elle fait des études. Elle sort diplômée de City College de New York, donc en 1955 avec un master. Donc elle fait des études artistiques, et puis bon, elle comprend assez rapidement qu'elle va, pour pouvoir vivre, elle commence à enseigner. Donc elle est très impliquée aussi dans l'enseignement artistique, et sa singularité, pour revenir à votre question, c'est pas une singularité individuelle. Faith Ringgold est vraiment une artiste qui très tôt, peut-être dans un contexte familial lié à l'importance de sa mère, de son père et de tout cet univers où Harlem était vraiment comme un village d'une certaine manière, où tout le monde se connaissait, tout le monde, enfin pas tout le monde selon les quartiers, mais il y avait une entraide, beaucoup de solidarité aussi dans un moment difficile. Comme elle le disait, nous étions pauvres parce que nous n'avions pas d'argent dans ce moment de la dépression, mais rien ne montrait visiblement cette pauvreté, puisque le dimanche nous étions toujours très bien habillés. Enfin, il y a toujours ce moment post-Harlem Renaissance qui consiste aussi à asseoir une certaine dignité dans la façon donc d'être dans la ville ou d'être chez soi. Et donc, et pour revenir à cette singularité, donc c'est plutôt le collectif, puisque Faith Ringgold, le noyau familial, le noyau amical, les musiciens, le jazz avec lesquels elle est amie très tôt, et puis ensuite un engagement. Elle va avoir donc ses enfants qui naissent quand elle est très jeune, puisqu'elle se marie et ses deux filles naissent en 52 et 53.
Donc pendant qu'elle fait ses études.
Pendant qu'elle fait ses études, exactement. Et donc et elle change la nature de son travail pour pouvoir aussi rester avec ses filles et s'occuper de ses filles pendant qu'elle travaille. Elle avait un atelier et puis elle déplace un petit peu les médias qu'elle utilise pour aussi s'occuper de ses enfants. Donc il y a aussi vraiment tout ce moment, cette question collective, elle est très importante, jusqu'à son engagement politique dès les années 60, en fait, dès le début des années 60.
Pour moi, c'est aussi toujours une question d'esclavage matériel, actuel. Quand je dis ça, je veux dire tout simplement que nous étions kidnappés ou vendus ou achetés pour faire l'argent pour les autres. Et l'économie américaine, et pas uniquement l'économie américaine, est basée sur cette fête. Jusque maintenant, dans mon pays, nous ne sommes pas dans le syndicat, pour la plupart. Jusque maintenant, dans mon pays, c'est tellement difficile de faire instruire un garçon ou une fille noire, parce que les textbooks, enfin les livres dont on te présente dans les écoles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, t'es sûr d'abord que vous êtes toujours un sauvage dans la jungle africaine en train de manger vos oncles, et vous avez beaucoup de chance d'être sauvé par la chrétienne pour laquelle tu travailles.
La voix de l'écrivain James Baldwin sur RTS en 1973, écrivain qui a fortement influencé Faith Ringgold.
En effet, donc 73, c'est exactement le moment où James Baldwin parle avec un français parfait.
Oui.
C'est exactement 10 ans après la publication de La prochaine fois le feu, 1963, qui est un livre qui marque en effet beaucoup Faith Ringgold. Et notamment, ce qui est intéressant par rapport à ça, parce qu'elle le cite, elle dit que... Quand elle a lu ce livre, c'était aussi au moment où Malcolm X, émettait toutes ces idées qui très importantes de prendre une conscience de soi-même en tant que personne africaine-américaine. 1963, c'est aussi la marche sur Washington où Martin Luther King prononce son fameux discours « I have a dream ». Mais 1973, en fait, ce que dit James Baldwin par rapport à cette représentation des Noirs en tant que sauvages, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser Faith Ringgold, dans la mesure où les textes de James Baldwin parlent des rapports entre les Blancs et les Noirs. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une défense de la cause noire, il contextualise toujours à partir d'une étude presque sociologique, je dirais, une situation donnée, de rapport entre les Blancs et les Noirs. Et Faith Ringgold, d'ailleurs, elle dit, à partir de la lecture de ce texte en particulier, elle dit « J'ai senti que je devais créer ma propre vision de l'expérience noire que nous étions en train de vivre et dont nous étions les témoins. » Et en lisant James Baldwin, j'ai compris que la façon dont il parlait des relations entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, permettait de comprendre que la disparité entre les Blancs et les Noirs était un élément dont il fallait parler aussi par les images et par la représentation. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit « J'ai décidé, en fait, de peindre cette réalité et ces relations entre les Blancs et les Noirs. Et je voulais... saisir comment ma peinture permettrait d'exprimer ce moment, et ce moment donc d'histoire, autour des années 60, et parce que ça c'est un élément, c'est une petite parenthèse, mais ce rapport à l'histoire est très très important pour Faith Ringgold. Elle se revendique comme étant presque une peintre d'histoire aussi, dans la façon dont elle va décrire.
C'est intéressant du coup, parce qu'on revient sur la question de la singularité. Elle ne s'affirme pas comme une singularité individuelle, mais vraiment dans un mouvement de l'histoire.
Exactement.
Qu'elle veut documenter.
Exactement. Et en fait, ce qu'elle dit par rapport à James Baldwin, c'est qu'elle voulait, grâce à sa peinture, donner son point de vue d'artiste femme africaine-américaine, montrant qu'est-ce qu'elle pouvait raconter de ces relations entre les Blancs et les Noirs.
Alors justement, on peut revenir à ce tableau que vous avez cité, qui a ouvert un peu la reconnaissance, la visibilité de Faith Ringgold. C'est American People Series, donc le tableau 20, qui s'appelle Die, qui date de 1967, où on voit justement, en fait, et là, il a été mis en regard des Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais en fait, il est fortement influencé par Guernica de Picasso, où on voit des hommes blancs et des hommes noirs qui s'entretuent.
En effet, alors Guernica a été beaucoup cité par Faith Ringgold, aussi parce que c'est un tableau qui, jusqu'en 1981, donc entre 1939 et 1981, était au MoMA, jusqu'à ce que, le tableau retourne donc en Espagne. Et Faith Ringgold a beaucoup regardé ce tableau, et Die est d'ailleurs du format... plus ou moins...
3,60 m, c'est
voilà,
ça.
Voilà, 1,80 m par 3,60 m. Et donc, c'est un format assez horizontal et qui rappelle très fortement Guernica de Picasso. Alors, en plus de Guernica, enfin, pour rajouter une référence importante, c'est que au même moment, enfin, pas tout à fait au même moment, mais il y a un autre artiste africain-américain extrêmement important qui s'appelle Jacob Lawrence, dont l'œuvre, qui c'est un artiste qui est né en 1917 et qui est arrivé dans le enfin, qui vivait à New York, aussi à Harlem. Et lui, c'est le premier artiste africain-américain à avoir eu une de ses œuvres dans la collection du MoMA. En 1941, avec une œuvre qui s'appelle The Migration Series. Et cette œuvre, en fait, a aussi beaucoup influencé Faith Ringgold. Et quand on regarde donc la toile, qui est assez monumentale, qui fait partie d'ailleurs de ces toiles qu'elle appelle les peintures murales, enfin, on appelle ça murals, et donc c'est aussi lié à la taille, au format, donc à la monumentalité de cette image. Et quand on regarde cette toile, qui est en deux panneaux, c'est une toile en deux panneaux, on va très fortement repérer la composition de cette toile. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les personnages...
Vous voulez dire que c'est assez lisible, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de plan caché, c'est ça ?
Déjà, parce que le fond est gris. Donc il y a une neutralité du fond, c'est-à-dire que ce qui permet d'être avant tout saisi, c'est la scène au premier plan, qui est composée donc d'un certain nombre de... Enfin, c'est des personnes qui s'entretuent, à la fois avec la présence d'enfants, avec une petite fille noire et un petit garçon blanc.
Qui se serre dans les bras et qui pleure. C'est assez terrible comme image. Hein.
Et en fait, il y a donc, par rapport au contexte, il y a aussi cette représentation, donc la composition est très importante. Et ce que j'aimerais souligner par rapport à ça, c'est que souvent, dans un contexte où la peinture d'histoire pourrait être analysée à partir d'un contenu, donc en lien avec des faits, et il est évident que Dai est très fortement inscrit dans un moment où, 2 ans après l'assassinat de Malcolm X, après les émeutes de Watts à Los Angeles, c'est un moment extrêmement... violent, tendu aux États-Unis. C'est le mouvement des droits civiques, mais bien évidemment, c'est pas du tout de façon pacifique que ça se passe. Un an plus tard, Martin Luther King se fait aussi tuer. Donc il y a des émeutes partout, et donc c'est aussi une description d'une émeute. Avec à la fois des armes à feu, des couteaux, et de façon indifférenciée. Mais ce que j'aimerais moi souligner par rapport à ça, c'est qu'au-delà de l'événement ou des événements qui motivent Faith Ringgold pour cette représentation, c'est aussi toute la composition et toute la technique picturale qu'elle met en avant. Et quand je parlais de Jacob Lawrence, c'est parce que Jacob Lawrence... toujours au MoMA, qui est vraiment un lieu comme ça, un peu où on se rend
décisif,
découvre dans les années 30 les peintures murales mexicaines, notamment d'un peintre qui s'appelle Orozco, qui est donc dans la même famille, aussi un peintre comme Diego Rivera. Et là, il y a une peinture murale révolutionnaire montrant les apatistes, qui est construite, donc j'ai regardé à partir de ce que... ce que disait Faith Ringgold en évoquant Jacob Lawrence, et on voit bien une composition où les corps, tels qu'on le voit sur ce tableau, il y a en permanence un déséquilibre. C'est-à-dire que personne n'est en équilibre. Et le fait que personne ne soit en équilibre apporte au corps une mobilité, renforçant la chute, renforçant d'un point de vue presque symbolique la fuite, renforçant, mais tout en étant cadré dans une toile certes grande, mais on voit bien qu'il y a aussi un hors-champ qui est représenté, puisque elle va, et ça c'est quelque chose de très très osé, de pouvoir montrer la moitié d'un corps. Donc il y a comme si la scène picturale qu'elle représente, ça, on pourrait presque le déplacer vers une scène photographique où il y aurait une partie du corps qui est coupée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez singulier, puisqu'on voit bien que certaines des personnes, notamment cette femme blonde qui cherche à s'enfuir du cadre, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont hors champ, mais qui sont quand même un petit peu représentées. Et ça, c'est au niveau de la composition, et le fait que de façon indifférenciée, à la fois les personnes blanches et les personnes noires soient teintées de sang ou maculées de sang. Et ça, c'est alors de manière aussi plus drôle, entre guillemets, puisque c'est très violent ce que l'on voit, mais c'est aussi en écho ou en miroir avec ce que fait Jackson Pollock. Parce que le dripping, en fait, elle dit, moi, j'ai fait mon dripping avec en des taches de sang. Exactement. Voilà.
Mais d'ailleurs, il y a tout un travail sur la couleur qu'il faut aborder chez Faith Ringgold, parce que c'est un tableau à la fois terrible. Effectivement, c'est quand même une scène d'émeute, de sang. Et en même temps, alors effectivement, c'est pas joyeux, mais c'est très coloré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas plombant dans ce tableau. Et c'est très paradoxal d'avoir quand même une scène d'émeute qui ne soit pas plombante.
Alors, c'est très juste, c'est une très, très bonne remarque. Et non seulement c'est pas plombant, mais ça donne de l'énergie.
Oui.
C'est-à-dire que ça appelle presque à la lutte.
C'est ça, exactement. C'est presque vivifiant.
Voilà.
Pour une scène quand même de meurtre et d'émeute, parce que les corps sont en sang.
Et ce qui est, alors, je pense que ça vient, indépendamment des couleurs qui sont utilisées, je pense que ça vient vraiment de la composition et de la manière dont les corps sont agencés. C'est une composition, donc cette forme de déséquilibre permanent qui est donnée, donc, bien sûr, le choix des couleurs, des robes, les hommes sont tous avec des chemises blanches et les femmes sont plutôt avec des robes oranges. Mais ce qui est aussi ce que l'on peut remarquer par rapport à ce tableau, c'est quand vous parlez de revigorant ou d'énergie, c'est aussi une grande fraîcheur. C'est-à-dire que quand on regarde le tableau aujourd'hui, il n'est absolument pas daté. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cela, puisque ça rejoint un petit peu votre remarque très, très juste. Est-ce qu'on n'est pas encore sorti de ce moment de violence? Enfin, moi, c'est mon analyse. Je pense qu'on n'est pas du tout sorti de ce moment de violence. Mais est-ce que la fraîcheur vient aussi de la façon, cette contemporanéité du tableau et de la façon dont elle l'inscrit dans un moment qui dure, en fait? Voilà, c'est peut-être aussi ça. Et peut-être qu'en montrant quelque chose de plus revigorant, ça donne des outils de lecture permettant en fait de concevoir ce rapport à l'histoire.
J'étais en prison pendant 16 mois et je connais des dizaines de prisonniers politiques en Caroline du Nord, en Californie, des Portoricains qui sont en prison.
Mais vous avez eu des avocats pour vous défendre. Les conditions de défense des détenus étaient peut-être mieux assurées que de l'autre côté.
Je peux constater que s'il n'y avait pas eu ce mouvement de masse, de solidarité, je serais en prison maintenant. Je serais dans une cellule en ce moment. C'était le mouvement qui a gagné ma liberté et c'était avec ça que nous allons gagner la liberté de Ben Chavis.
Ce matin, l'avocat des Panthères Noires, William Koestler, ne mâche pas ses mots. L'État de New York a décidé que la force avait plus de valeur que la vie humaine. Il a délibérément sacrifié la vie d'otages et de détenus sur l'autel de l'opportunisme politique, dit-il. Le président Nixon, en revanche, félicite le gouverneur de l'État, Nelson Rockefeller. Ce qu'il reste ce matin, ce sont les 37 morts de la mutinerie la plus sanglante de l'histoire des prisons américaines. Elle a commencé jeudi, lorsque plus d'un millier de détenus du pénitencier se révoltent, ils brûlent une partie de la prison et prennent 38 otages. Immédiatement, des renforts entourent le pénitencier d'Attica. Un gardien, défenestré par les mutins, meurt. La tension monte. Elle monte encore lorsque les autorités refusent d'accepter deux revendications des prisonniers, l'amnistie totale et le renvoi du directeur de la prison. L'assaut donc est donné à 9h45 hier soir. Un hélicoptère décolle et lance sur la prison des grenades lacrymogènes. Les forces de police entrent dans la prison. On connaît la suite. Tout est fini à 1h30 du matin. Encore que l'on puisse se demander quelles vont être les conséquences de ce drame sur le plan des relations raciales et pas seulement dans les prisons.
1971, la mutinerie d'Attica a provoqué l'indignation tandis que le président Nixon félicite le gouverneur de l'État de New York malgré les 37 morts. Voilà ce qu'on vient d'entendre dans cette archive, Elvan Zabunian. Et juste avant, on a entendu la voix d'Angela Davis, ce qui montre bien, encore une fois, le contexte dans lequel s'inscrit l'artiste Faith Ringgold. Et elle va réagir à chaque fois en produisant de l'art, en modifiant son art en fonction, en fait, de ces événements. Donc, par exemple, pour Angela Davis, elle va créer créer des affiches pour libérer Angela Davis. Et pour la mutinerie d'Attica, elle va s'appuyer sur le motif de la carte qui va revenir régulièrement dans son œuvre. Et elle va créer ce qui est appelé United States of Attica. Donc c'est une carte des États-Unis qui est complètement revue et corrigée. Et donc Faith Ringgold indique état par état les conflits meurtriers qui ont lieu, plus le nombre de morts. Voilà deux types de productions très politisées, on pourrait dire, de Faith Ringgold.
En effet, donc déjà pour les affiches concernant Angela Davis, donc elle s'inscrit dans un mouvement, disons mondial presque, de demande de libération, de sa libération. Et là aussi, le collectif prime, même si c'est elle qui réalise les affiches. Les titres, c'est Woman Free Angela. Ou alors America Free Angela. Donc c'est-à-dire que ce sont les femmes qui libèrent Angela, ou alors l'Amérique qui libère Angela. Donc c'est pas à titre individuel qu'elle va publier, c'est les titres des affiches. Et les affiches reprennent les codes couleurs, qui sont les codes couleurs panafricains, le rouge, le noir, le rouge et le vert. Reprend aussi en fait cette structure qui l'a beaucoup intéressée dès le début des années 70, qui est des formes très stylisées qu'on appelle kuba, qui sont les utilisations presque africaines, enfin de textiles. Et donc l'affiche est vraiment structurée de cette façon. Enfin, les affiches, c'est très géométrique, avec les lettres, donc qui donnent le nom, les lettres du titre de l'affiche, qui Free Angela, qui deviennent en soi une composition. Alors, Faith Ringgold est en effet très très engagée à cette époque-là, déjà par rapport à la représentation, la nécessité d'être dans une représentation renforcée des artistes femmes, des artistes africaines-américaines et africains-américains. Donc, elle manifeste aussi devant les musées avec ses filles pour demander une plus grande visibilité dès 1970. Donc, les manifestations sont très très importantes à ce moment-là dans le monde, dans le petit monde de l'art new-yorkais. Et il y a une photo qui existe d'elle, une photo d'archives qui existe d'elle, où elle demande la démission de Rockefeller, qui est l'un des qui est dans le board du musée, c'est le Whitney, je pense, et c'est aussi le gouverneur Rockefeller qui envoie en fait l'armée pour ce qu'on appelle le massacre d'Attica. Donc l'affiche de United States of Attica, elle est signée par The Judson Three. Et là, c'est avec deux de ses confrères artistes, Hoche et Hendrix, elle réalise une exposition autour du drapeau américain dans une église importante qui était un lieu alternatif qui s'appelle la Judson Church. C'était lors de cet événement, en fait, pour dénoncer, parce que ces artistes revendiquent la possibilité pour les artistes de faire une critique du drapeau américain en pleine guerre du Vietnam. Et elle se fait arrêter avec ses deux confrères et elle est emprisonnée pendant 24 heures. Et donc, à la suite de ça, 1972, United States of Attica permet aussi de générer des sous, c'est-à-dire que c'est une affiche qui est très très vendue et donc ça permet aussi d'être un travail de fundraising, disons. Et puis surtout, c'est une œuvre en devenir, puisque il est indiqué en dessous cette carte de l'Amérique, de la violence américaine est incomplète. S'il vous plaît, vous pouvez ajouter tout événement qui manquerait. Des précisions supplémentaires.
Et donc c'est assez drôle, en fait, c'est assez ironique, c'est-à-dire de jouer quand même sur ce côté-là. Mais ce qui est frappant dans cette carte aussi, c'est que elle est à la fois très humaine, très humaniste, et en même temps, on est dans une rupture quand même de ton chez Faith Ringgold, parce que on a parlé du tableau d'Aïe qui représente des hommes blancs, des femmes blanches, blanches et des hommes noirs et des femmes noires. Et on a là quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. On n'est pas dans l'art du portrait qu'elle a pu aussi beaucoup développer dans les années 60, en s'intéressant à notamment des représentations stéréotypiques, en travaillant sur les couleurs. Comment elle a pu passer en fait d'un travail vraiment sur les corps et les visages et la couleur de ces corps et de ces visages à un travail beaucoup plus abstrait, presque formaliste, on pourrait dire.
Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question et votre observation. Déjà, la façon dont Faith Ringgold représente les figures, c'est un élément, on l'a évoqué avec le tableau précédemment, mais c'est une manière aussi de contrer une certaine hégémonie artistique masculine, puisque à l'époque, à New York en particulier, pratiquement tous les artistes hommes font de la peinture abstraite ou font un travail abstrait, ou en tout cas c'est l'abstraction qui prime, disons, si on se met du point de vue de l'histoire de l'art. Et la question donc de la figuration est importante pour elle. Mais dans ce cadre-là, on est très clairement dans un engagement politique. Et il y a la nécessité aussi de présenter des choses qui, d'un point de vue graphique, vont avoir une... On va comprendre immédiatement. Mmh. Alors, bien sûr, la carte...
C'est-à-dire qu'il y a une forme d'abstraction dans la figuration qu'elle présente. Je pense notamment à sa série Blacklight, par exemple.
Alors, justement, réunir les deux questions que vous avez posées, c'est-à-dire que le travail politique dans lequel elle s'engage de façon... c'est pas comme une étape, elle ne peut pas faire autrement, puisqu'en tant qu'artiste, elle est aussi inscrite à New York à ce moment-là dans un mouvement qui s'appelle Art Workers Coalition, et c'est des personnes qui, de façon collective, sont très engagées. Elle crée aussi une association féministe d'artistes noirs. Donc elle est déjà, de toute manière, dans une pratique très très activiste. Et justement, c'est ce qui lui est reproché, parce que en 1967, donc elle a son exposition à la galerie Spectrum dont j'ai parlé au début, qui s'appelle American People. Et en fait, la deuxième exposition prévue en 1970, elle a envie de l'intituler Black America. Et en fait, le galeriste ne veut pas, trouve que c'est trop radical, justement. Et en fait, entre les deux, entre Die et ce moment-là, commence pour chez elle, à partir de 68, au moment où elle s'engage vraiment aussi dans les manifestations, dans la rue, etc. Cette série de portraits, donc des Black Light, et cette série, elle est très très impressionnante aussi dans l'usage de la peinture, enfin des pigments et de la peinture qu'elle utilise, de la technique qu'elle utilise.
Pourquoi qu'est-ce qu'elle a comme technique particulière?
Alors elle raconte de façon très très intéressante que elle a, avec des détails très précis, elle a commencé à utiliser une peinture qui s'appelle Ivory Black. Donc c'est le noir d'ivoire, qui est une peinture à l'huile, qui donne des tons très chauds et qui est assez transparente, mais qui met aussi beaucoup de temps à sécher. Et donc ça donne une forme de luminosité, une forme de brillant, comme elle dit, glossy sur la toile. Mais ça donne aussi des transparences, donc ça teinte les autres couleurs qu'elle utilise. Et puis, elle s'aperçoit en fait que ce côté un peu luisant, un peu brillant, ne lui convient plus. Et donc, Ivory Black, c'est vraiment un pigment réalisé, donc un pigment qui existe depuis longtemps. Et elle va commencer à utiliser des noirs, et notamment un noir qui s'appelle Mars Black, et qui est en fait, alors Mars comme le dieu représentant aussi le fer, puisque c'est de l'oxyde de fer, et donc c'est les toiles que l'on voit des Black Light, c'est cette peinture-là qui est utilisée et qui donne un rendu très très mat, qui absorbe la lumière. Donc il y a aussi quelque chose de très contrasté, puisque ça s'appelle Black Light, mais ça emprisonne la lumière comme si la toile était à regarder, comme si on devait passer du temps devant la toile pour commencer à discerner ce qui qui trouvent, en l'occurrence, les portraits de ces... Il y a toute une série, série assez grande, mais c'est vrai que...
C'est vrai qu'on dirait qu'il y a comme un voile noir.
Et ça, ça vient de l'usage de, de ce noir, de ce black, de ce Mars Black.
Ouais, et à l'inverse, le parce qu'elle fait aussi des portraits des Charlie. Donc les Charlie, c'est les hommes blancs qui eux aussi en fait n'ont pas un blanc blanc. C'est-à-dire qu'ils ont un blanc un peu terne, cireux, crayonneux, crayeux, je sais pas comment voilà, un petit peu pâteux presque.
Et là, c'est intéressant parce que là on en vient précisément non plus à décrire ce que l'on voit, mais à décrire la technique qu'elle utilise. Oui. C'est en cela que c'est une peintre extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est, on comprend, et donc elle est là, ce teint-là, pour elle, bah, c'est sa représentation de ces American people, et elle fait des expériences picturales.
Mais presque sous nos yeux, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, l'usage, par exemple, du bleu, du rouge, un rouge un peu ocre, donc il y a des tonalités qui reviennent, c'est-à-dire que même sur les peaux blanches, l'usage du bleu ou l'usage du rouge vient renforcer. Ça, c'est, il y a les aplats, et puis il y a ce qu'elle pose en plus avec ses couleurs, c'est-à-dire qu'elle fait des contours très très précis des traits des visages. Et le côté plus cireux, justement, c'est aussi la façon dont elle recouvre de ces différentes peintures, que ce soit à l'huile ou des peintures plus mates. D'ailleurs, elles sont pas aussi mates que les black lights, les fameux Monsieur Charlie.
Les Charlie.
Nothing till you hear from me. Pay no attention to upset. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me, and you never will.
Well, I decided that I needed to get involved with women's issues.
Alors, j'ai décidé que je devais m'impliquer dans les questions relatives aux femmes.
At the Whitney Museum in 1970,
Whitney Museum, en 1970, des biennales étaient organisées dans lesquelles il n'y avait que très peu de femmes. À la dernière, je crois qu'il y avait quelque chose comme 2%, peut-être seulement même deux femmes. J'ai demandé à quel pourcentage de femmes on pouvait prétendre, et ma fille a dit 50% de femmes. Tu veux que 50% des artistes de la biennale soient des femmes?
You know, we'd blow our whistles. We had whistles, police whistles.
Vous savez, nous avons sifflé avec des sifflets de policiers. Nous avions des œufs. J'ai cuit le mien. Je l'ai peint en noir et écrit 50% dessus. On avait l'impression qu'on faisait quelque chose, qu'on participait au mouvement américain qui allait rendre les choses égales.
la voix de Faith Ringgold en 2012, qui raconte comment elle a manifesté en 1970. Hein, vous l'avez dit, Elvan Zabunian, elle est très engagée, Faith Ringgold, notamment en fait pour des histoires en fait dont on traite encore aujourd'hui, hein, des histoires de quotas, de représentation, de nombre d'artistes sélectionnés ou représentés dans un musée. Et là aussi, on peut peut-être parler d'œuvres de Faith Ringgold qui traduisent aussi par leur méthode cette envie en fait de tisser des liens entre elle et sa fille dont elle parle dans l'archive et qui vont traduire encore une fois cet engagement et notamment du côté du féminin ou même on pourrait dire en fait de l'intersectionnel puisque en fait elle va reprendre à la fois des motifs sur le colonialisme et sur la condition des femmes.
Alors, en effet, tisser des liens. Peu de temps après, en tout cas la même année où elle réalise cette affiche pour Attica, United States of Attica, elle commence une série qui s'appelle la série féministe, qui est, alors ça s'appelle en anglais « Feminist Series of My Two Handicaps », donc la série féministe de mes deux handicaps, qui serait celle celui d'être femme et noire. Et cette série comprend 20 toiles qui marquent aussi l'usage de toiles plus mobiles ou plus transportables avec qu'elle peut rouler, qui sont des toiles sur de la peinture sur toile, mais elle rajoute du textile autour, elle rajoute en fait des bordures, donc le cadre n'est plus un cadre rigide mais un cadre souple, et c'est aussi lié à la nécessaire mobilité en fait qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle veut être totalement autonome en tant qu'artiste femme, ne pas avoir à transporter à la fois ses enfants dans les bras, oui, et les toiles en dépendant de quelqu'un qui l'aiderait de l'atelier à chez elle. Donc elle devient totalement autonome. C'est là où elle va commencer à utiliser le tissu. Et ses filles, alors sa mère, comme on le disait tout à l'heure, était une styliste. D'ailleurs, Faith Ringgold a défilé pour sa mère avec d'autres personnes. Ses filles ont aussi défilé. Elle était couturière et elle commence à collaborer avec sa mère dès le début des années 70 pour tout ce qui concerne ces objets, enfin ces peintures sur toile, mais qui sont aussi des peintures sur tissu.
Mais c'est quand même une idée géniale parce que de la même manière que vous parliez tout à l'heure, Elvan Zabunian, du travail en fait. Du fait qu'on parle de sa technique, le fait par souci en fait matériel, par souci de mobilité, d'indépendance, de faire des toiles souples, mobiles sur tissu, et donc en même temps de faire une véritable création. C'est pas juste une astuce pour transporter des
Bien
toiles.
Sûr.
C'est quand même une idée fabuleuse.
Alors oui, c'est une idée fabuleuse. C'est important peut-être de préciser que à cette époque, parmi les revendications des artistes un peu partout, pas seulement aux États-Unis, il y a la volonté aussi de contrer les formes artistiques plus académiques, donc la toile ou la sculpture qui aurait été réalisée dans un atelier et qui ensuite serait déplacée de façon assez traditionnelle dans un espace d'exposition. Ce sont des codes en fait que les artistes cherchent à complètement déconstruire. Donc cette technique, indépendamment de sa fonctionnalité première pour elle, est aussi une façon de proposer des œuvres qui viennent aussi à l'encontre en fait de ce que l'on a l'habitude de voir. Et le tournant des années 60, enfin ça commence plus tôt, mais dans certains cas, mais le tournant des années 60, ces transformations des modalités de création et de présentation et d'exposition, c'est vraiment ça fait partie des revendications presque politiques des artistes, d'une certaine façon. Donc, il y a la question de la technique, mais il y a aussi une volonté d'aller à l'encontre de ces formes très académiques, d'une certaine manière.
Mais ce qui est paradoxal, c'est d'avoir, par exemple, on l'a entendu dans l'archive, d'avoir voulu lutter pour faire partie de ces institutions et en même temps d'avoir lutté contre ces institutions. Il y a quelque chose d'un peu presque ambivalent.
Alors ça, c'est... Oui, c'est très juste, d'autant plus que, alors c'est juste une mini parenthèse, mais le Whitney Museum, qui a été l'un des musées à avoir été particulièrement ciblée par les formes de discrimination, puisqu'elle parle de la Biennale du Whitney de 1970. Et il faut juste préciser d'ailleurs que les manifestations et les revendications ont été entendues. À un moment donné, la Biennale du Whitney a rajouté, à l'époque où elle dit qu'il n'y avait presque personne, c'est 0,2% de femmes. Et après, ça passe à 2% ou 3%. Et il faut attendre la Biennale du Whitney dans les années 90 pour avoir une même 2019 pour avoir une représentation équitable entre les femmes et les hommes, donc la question de la parité. Et en fait, par rapport à ça, le Whitney Museum, il y a quelques années, a fait une exposition sur l'art, sur ce qu'il appelait le protest art, donc l'art contestataire, en ressortant toutes les archives qui étaient les lettres qu'avaient écrites justement les artistes comme Faith Ringgold ou d'autres. Et donc tous les courriers qui ont été de dénonciation qui ont été envoyés sont restés dans les archives et sont présentés. Donc on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette ambivalence, mais c'est toute la réalité du monde de l'art de tout court, en fait. Je pense c'est toujours ce bras de fer en fait qui se joue entre les artistes et les institutions d'une certaine manière, comment est-ce qu'on doit se présenter en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on garde une certaine autonomie, et en même temps la visibilité se fait par la présence dans les institutions. Donc,
est-ce qu'on peut dire que Faith Ringgold a abandonné au fur et à mesure, justement parce qu'elle était en lutte contre ces institutions, toute forme d'art traditionnel, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le tissu, au fur et à mesure, en fait, elle va travailler sur, elle va faire des kilts, donc en fait, elle va complètement s'émanciper des toiles. Alors les tissus restent, en fait, au départ, les tissus étaient juste des cadres, ils sont devenus la matière même de la toile, et puis après, elle est allée vers des installations, elle a fait des poupées presque, voilà, avec de la musique, des représentations, des performances. Est-ce qu'elle a abandonné la peinture ?
Non, elle n'a pas abandonné la peinture, mais elle a décliné les différentes possibilités que la peinture offrait pour s'aventurer, disons, dans d'autres techniques ou devenir spécialiste d'autres techniques. Ce qui est important par rapport à cette question du textile, enfin, je voudrais juste, je sais que le temps passe et que...
Mais allez-y.
Et en fait, juste revenir sur l'usage du terme de sauvage de James Baldwin dans l'extrait que l'on a entendu tout à l'heure, et la façon dont Faith Ringgold, elle ne sort pas des codes, disons, institutionnels, mais quand elle réalise le studio de Picasso, le kilt, justement, en kilt qu'elle réalise et qui date de 1991, là, elle va interroger la place du modèle, elle-même en tant qu'avatar, disons, représentée par Picasso, avec les Demoiselles d'Avignon en fond, et on est dans une approche presque tautologique de elle en tant qu'artiste, femme, qui, quels que soient ses efforts et les efforts de ses consoeurs et camarades, disons, artistes, il y a toujours finalement une forme de reterritorialisation, pour utiliser le terme, où on nous remet à chaque fois à notre place. Enfin, en tout cas, elle pense ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'éclipse, disons, de toutes ces questions. Elle va devenir très impliquée aussi dans le monde de l'éducation. Elle va beaucoup travailler avec les jeunes. Et c'est vrai que les années 80, 90, il y a des choses qui sont ponctuées. Mais ce qui se passe dans les années 70 dans son travail... se poursuit, puisque comme on peut le voir dans les publications ou même dans les expositions, sa pratique n'a jamais vraiment cessé jusqu'à une période récente. Et dans le même temps, on est dans quelque chose qui n'appartient pas. Le tissu ou le textile, c'est de façon complètement stéréotypée, toujours une histoire de femme, en fait. Voilà.
Donc, en fait, elle se réapproprie ce code-là pour le détourner, se le réapproprier et en même temps bousculer cette institution qui, justement, l'avait mise de côté. Et maintenant, d'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'au musée Picasso, ce sont précisément ces tissus-là qui sont exposés en particulier. J'aimerais qu'on parle, on n'aura pas le temps d'entendre la voix de Martin Luther King, mais d'une grande installation installation que Faith Ringgold a faite, où là, il y a donc la représentation d'un couple amoureux, lui mort de toxicomanie et elle de chagrin, qu'elle représente mort au sol, et donc comme une sorte de veillée funèbre autour de ces personnages, et qui est accompagnée là aussi en fait de musique, de discours, et qu'elle va représenter et re-représenter pendant plusieurs années.
C'est un travail qui date de 1976 et qui a été réalisé en écho au bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, donc le 4 juillet 1776. Et en fait, donc elle remet au cœur de cette histoire la place des Africains et des Africaines américaines, parce qu'à cette époque-là, bien sûr, c'est la période de l'esclavage, puisque l'esclavage est aboli aux États-Unis en 1865. Et en fait, elle croise donc un moment d'histoire, de commémoration historique pour montrer des figures noires, mais cette histoire de deuil et de mort d'overdose est aussi sa propre histoire, puisque son premier mari est mort d'une overdose en 66, et un de ses frères est mort d'une overdose également. Donc elle va croiser, d'une certaine façon, cette histoire plus intime, plus familiale de deuil, avec une représentation, ces représentations de poupées, d'une certaine façon ce sont des poupées noires, extrêmement bien réalisées aussi avec sa mère, mais on les voit pleurer, on voit des perles.
C'est assez saisissant.
C'est très saisissant.
Parce qu'on a vraiment, en fait on voit que ce sont des poupées, elles n'essayent pas de reproduire des corps humains, donc c'est clairement des poupées, mais on dirait vraiment que ces poupées sont vivantes. C'est extrêmement troublant.
Alors il faut juste savoir, et ça c'est très important, c'est que ces poupées, là c'est présenté dans un musée de façon un peu figée, mais c'était pas, ça faisait partie d'une performance, et elle a énormément tourné, comme voilà, être en tournée dans beaucoup d'universités, dans beaucoup d'écoles d'art, avec cette performance, et les étudiants et étudiantes étaient engagés dans cette performance, et c'était une manière, vraiment, la résurrection, parce que le titre c'est « L'éveil et la résurrection du noir bicentenaire », et bien c'est vraiment une façon de jouer sur cette agentivité très très forte des personnes qui étaient impliquées dans ces performances. Donc ce sont des accessoires, enfin c'est une installation, mais c'est aussi une installation qui fait partie d'une performance qu'elle a jusqu'au début des années 90, je pense, elle a tourné aux États-Unis ou dans différents lieux avec ses poupées et
comme des compagnons de route presque.
Exactement.
Merci beaucoup Elvan Zabignon, on aurait pu encore parler longtemps, je pense, du travail de Faith Ringgold, c'était passionnant. De vous, on peut lire Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain, disponible aux éditions d'Ivoire, et puis aussi vous avez co-dirigé l'anthologie Constellation subjective pour une histoire féministe de l'art aux éditions X, et j'en profite donc pour rappeler qu'il y a une exposition Faith Ringgold, Black is Beautiful, au musée Picasso. C'est à Paris jusqu'au 4 mars 2023. Encore merci.
Merci à vous.
Listen, Mary. Tell your sister to don't moan. Oh,
Martha, don't you moan.
Pharaoh's army.
Pharaoh's army.
All of them men got drowned in the sea one day.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Lord à l'Est. Réalisation Louise André, prise de son Clara Galivelle. Pardon. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.